La Dame impassible, par Léon Frappier. À la sortie de Paris, une avenue nouvelle, formée de villas coquettes récemment construites et ayant pour façade des jardins contigus, en perspective un terrain vague affligé d'une masure délabrée. Comme Madame Bocange refermait la grille de l'entrée, après avoir suivi les yeux ses deux enfants conduits en promenade par la bonne, une jeune personne inconnue survint et la salua à la manière d'une visiteuse. Madame Bocange était une grande et belle femme au regard clair, au trait régulier, immobile, donnant l'impression d'une pensée droite, assurée, imperturbable. La jeune fille, ni grande ni petite, très simplement mise, avec un chapeau et des gants, avait un minois intelligent, à la fois soucieux et agréable. « Entrez, mademoiselle, si vous voulez bien, nous nous assierons ici, près du perron. » On était en septembre, par temps chaud et lumineux. Une corbeille de zinnia aux nuances riches, aux tiges rigides, s'accordait avec l'aspect classique et confortable de la villa, même avec la silhouette de la dame du logis, habillée sans décolletage, de mauve tranquille. Sur le côté, un tilleul ombrageait quatre sièges d'osier et une table ronde peinte en vert. « Madame, je suis l'avocate qui a plaidé pour cette misérable femme, dont on aperçoit l'habitation au bout de l'avenue. » Madame Bocange s'appuie au dossier de son fauteuil et son intonation fut nette et posée. « Ah, vous êtes l'avocate. Eh bien, mademoiselle, je ne vous félicite pas. Un pareil acquittement constitue un scandale abominable. Les crimes contre l'enfance devraient toujours être châtiés sans pitié. Ou au surplus, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes paroles. Votre profession ne me plaît pas. Sans doute, le titre d'avocate semble-t-il séduisant, mais les jeunes filles ambitieuses feraient mieux de chercher ailleurs qu'au barreau des profits et des satisfactions de vanité. Madame, je pourrais vous répondre au sujet de ma profession et au sujet de votre rôle de femme du monde. Je ne veux pas le faire. Je parlerai seulement de l'acquittement obtenu qui, de toute façon, s'imposait en bonne justice. La mort de l'enfant a vraiment été le fait d'un accident. La mère n'a pas frappé. La mère a eu un geste exaspéré, irrésistible. Elle a lancé une claque sans intention meurtrière, même sans intention bien méchante. La fatalité a voulu que la petite Mélie perdît l'équilibre en se garant et que sa tête porta sur le bord d'un paquet. Si une complication mortelle est survenue, ce n'est pas parce que les soins lui ont manqué. Certes, cette femme m'a eu le tort de céder à un mouvement dont une mère, telle que vous, madame, serait incapable. Mais elle rentrait brisée de fatigue, après sa rude journée au dehors. Elle devait encore se hâter de préparer le dîner pour son mari et ses trois enfants. Allumage du feu, épluchage des légumes, cuisson. Elle devait laver la vaisselle de la veille, retaper les lits, donner un coup de balai et rafistoler des nippes pour les départs du lendemain matin. Et voici que la petite Mélie pataugeait dans l'eau du baquet qu'elle avait répandu au milieu de la cuisine en voulant jouer à la lessive avec le linge qui trempait. Et c'est si pénible de se baisser, de se relever, de tordre un chiffon pour éponger le carrelage. Vous pouvez vous dispenser de plus longs détails, où voulez-vous en venir? L'acquittement par le tribunal n'empêche pas la condamnation du monde. Heureusement, aucune des personnes qui employaient la libérée ne consent plus à lui donner de l'ouvrage. Vous ne supposez pas qu'il puisse en être autrement. Il reste deux petits à élever, et le salaire du mari est insuffisant. La réprobation et la misère sont dans le taudis lugubre où l'on ne parle plus et où l'homme et les enfants semblent en regarder l'inscription sur le dos fuyant de celle qui ne trouve plus à gagner son pain. C'est le mari qui est venu me crier au secours. Comme les parts sont rognées, insuffisantes, la misérable ne mange plus et lui, à cause des petits qui pâtissent, il n'articule pas les mots nécessaires pour la conjurer de ne pas se laisser mourir. Il faudrait que l'une de ces dames prît l'initiative. Il faudrait que quelqu'un dans le voisinage eût la charité de faire entrer la réprouvée dans l'humanité, en la demandant pour une des corvées dont elle se chargeait précédemment. Et l'on m'avait indiqué votre nom, madame. Le visage de madame Bocange n'avait pas bronché pendant la durée de cette réplique. On aurait même pu douter qu'elle eût perçu aucun son, si malgré tout le front et les yeux, en leur fixité, n'eussent marqué de l'attention. Elle reprit son accent parfaitement calme et solide. Vous avez dit au début, mademoiselle, que vous pourriez me répondre au sujet de votre profession et au sujet de mon rôle de femme du monde. Voudriez-vous le faire maintenant ?
Oh, madame, non, maintenant moins que jamais.
Dans ce cas, mademoiselle, moi, je ne répondrai pas non plus à vos dernières paroles.
La visiteuse hésita, porta son regard avide vers l'avenue sablée où passaient les cyclistes en maillot blanc, où le soleil, sur les villas fleuries, chantait le bonheur des vacances. Elle se décida.
« Eh bien, madame, au sujet de ma profession,
j'ai le plus souvent à plaider et à me déranger gratuitement, comme aujourd'hui. Et pour ce qui est de mon titre et de ma vanité, vous n'avez qu'à voir mon vêtement.
Quant à votre rôle, madame, je me permettrai une seule réflexion, toute modérée. La femme qui a la vie assurée, qui peut en plus se faire aider pour les soins des enfants, pour l'entretien de la maison, ne devra jamais requérir tout haut contre celle dont l'existence précaire est continuellement accablée de fatigue et de tracas. » Un silence. Madame Bocange, impassible, eut un mouvement de tête qui signifiait « C'est tout ». Elle se leva, ses yeux clairs, sur la jeune avocate qui s'était levée aussi pour s'en aller, semblèrent la mesurer de bas en haut, des souliers au chapeau, puis une légère tousserie affermit sa voix.
« C'est bien, mademoiselle. Vous pouvez aller dire à votre acquittée qu'on la redemande ici pour faire... » Une légère tousserie encore, pour faire des heures. Si elle reste sans manger, je suppose qu'elle n'a pas beaucoup de force.
C'était La Dame impassible par Léon Frappier.